prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, chercher le royaume et la justice.
Notre Bible, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors on commence par cela, 1 Corinthiens, chapitre 2. Et nous allons lire cette petite parole qui nous est laissée par l'apôtre Paul. Il a écrit beaucoup de choses, Paul. Il a écrit beaucoup de choses inspirées parce que vraiment il fait la démonstration que c'est un homme de l'esprit. Il fut un temps dans sa vie, c'était un homme religieux, profondément religieux, avec probablement de grandes capacités dans ses efforts, comme on vient de le chanter il y a un instant, pour gagner le ciel, mériter la bénédiction de Dieu. Et puis un jour il a compris que c'était pas du tout ça. Il y avait autre chose, une autre dimension. Et nous allons voir, d'abord dans ce qu'il nous laisse, à travers une simple parole, eh bien, tout simplement, ce qu'il nous enseigne. Et puis nous nous reporterons ensuite dans un autre passage dans l'Ancien Testament. Alors voilà ce qu'il dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Voilà. Donc je vais relire ce passage, si vous permettez. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Ce que l'apôtre... Excusez-moi, mais j'ai des problèmes. Voilà, j'espère que ça va aller. L'apôtre, donc, fait la démonstration que la foi, eh bien, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est un don de Dieu, il faut le dire. C'est avant tout, eh bien, d'abord une révélation de la part de Dieu pour que nous puissions, eh bien, rentrer en contact avec ce Dieu invisible et obtenir tout ce dont nous avons besoin en tant qu'hommes, et puis aussi, eh bien, une espérance supérieure, c'est-à-dire celle de la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi il dira, mais humainement parlant, les sens humains, l'œil, l'ouïe en particulier, eh bien, sont complètement étrangères, finalement, à cela. Et jamais le raisonnement ou l'entendement humain n'a pu percevoir, eh bien, cette dimension, sinon... lorsque Dieu, eh bien, entreprend une personne ou une autre pour lui révéler finalement ses mystères. Et lui révéler, je dirais, parce que nous allons le souligner d'ici quelques instants, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors il y a beaucoup de gens qui demandent à leur manière, qui demandent selon peut-être la manière dont on leur a apprise les choses. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'inspiration, tout simplement, eh bien... nous vient de l'Esprit de Dieu et ça est donné à ceux qui l'aiment. Alors nous allons justement illustrer ce propos avec une deuxième lecture à travers le livre des Rois et un passage peut-être que vous avez déjà lu. Je présume qu'il ne vous est pas étranger. Et c'est dans 1 Roi, chapitre 3, et au verset 4, nous allons lire aussi, eh bien, en complémentarité de ce que... l'apôtre Paul nous a, eh bien, déjà donné de réfléchir. Et nous voyons qu'il est question d'un autre homme, de la Bible, qui n'était pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Salomon au début de son règne, et dans l'inspiration des choses qui ne seraient peut-être pas montées à son cœur, que son œil ou que son oreille n'aurait peut-être certainement pas en effet reçu ou perçu, mais qui néanmoins eh bien, va faire de cet homme un homme de prière, et cette prière est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que je crois que quand on demande à Dieu de nous inspirer dans ce que nous avons à lui demander, quand nous nous approchons de lui en disant « Seigneur, mais quelle est la meilleure manière, quelle est la meilleure façon d'obtenir ta grâce et ta bénédiction ?» Eh bien, Salomon nous enseigne sur le sujet. Alors, on va lire donc 1 Roi, chapitre 3, verset 4. Il nous est dit que le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Et voilà l'objet de la prière. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. Voilà. Alors, on a vraiment un texte fameux sur la prière et l'inspiration de la prière. Vous savez, peut-être on en a le souvenir nous-mêmes, lorsque nous étions enfants, on nous a appris à prier. On nous a donné des formules de prière. On nous a demandé de les répéter inlassablement. Et il y avait là tout un accompagnement et tout un cérémoniel autour de cette prière religieuse, on pourrait dire. Mais nous voyons que lorsque nous prenons contact avec le message évangélique, on voit que les prières les plus belles et les plus grandes, ce sont celles qui sont montées spontanément, finalement, du cœur, tantôt de l'un, tantôt de l'autre. On pense à Jaïrus, on pense à ce centenier, on pense à la femme à la perte de sang, on pense également, eh bien là, à cette cananéenne. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que la véritable prière, elle n'a pas besoin d'une multitude de mots, elle a besoin naturellement, tout simplement, eh bien d'un cri. C'est un cri en quelque sorte. Et je crois qu'il y a toujours derrière la prière, et ce qui permet à Dieu, ce qui permettra et ce qui a permis à Dieu de faire quelque chose dans le domaine de l'exaucement, c'était la foi qui l'accompagnait. Alors moi je pense que c'est vrai que quand Paul... après avoir reçu une éducation très, très marquée par le judaïsme, eh bien, a découvert une nouvelle dimension de la prière. C'est lui-même qui dira à un moment donné, dans l'Épître aux Romains, il dira « Mais nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, eh bien là, par des soupirs inexprimables, s'adresse à Dieu, avec des mots, c'est vrai, que nous ne comprenons pas, c'est ce que l'on appelle le parler en langue, suite au baptême du Saint-Esprit, mais qui néanmoins eh bien, a la caractéristique de l'inspiration. » Et je pense que souvent même les hommes en sont arrivés à faire des recueils de prières, c'est-à-dire avec des prières toutes faites, à lire, à répéter, ceci et cela. Mais je pense que dans tous ces rapports qui nous sont donnés, dans tous ces exemples, on s'aperçoit qu'avant tout, eh bien, il y a véritablement un élan du cœur qui porte la foi jusqu'à Dieu et qui nous fait demander à Dieu ce que Dieu aime entendre. Voilà, ce que nous-mêmes n'avons peut-être pas bien là dans notre tout simplement démarche naturelle, mais c'est Dieu qui met cela. Et c'est formidable d'être utilisé par Dieu comme finalement eh bien, là, un porteur ou une porteuse de prière, une porteuse ou un porteur de prière de la foi. Alors, c'est vrai, on peut revenir, ce que l'apôtre Paul pouvait dire, ça n'est pas monté au cœur de l'homme, mais finalement, eh bien, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors je pense que la prière, elle s'accorde d'abord par une prière qui n'est pas formaliste. La deuxième chose, c'est également eh bien, la foi. La troisième chose, c'est aussi l'humilité. Et puis la quatrième chose, c'est d'aimer Dieu. Voilà. Hein, je pense qu'on pourrait en ajouter d'autres, hein, naturellement, mais on a cela un petit peu chez Salomon. Alors, pour revenir à notre texte du Livre des Rois, eh bien, il nous est parlé donc de Salomon, qui vient juste d'être intronisé, il vient de monter sur le trône. Son père David vient de mourir, et puis là, il est porté par le peuple. Et il se rend dans un endroit qui s'appelle Gabaon, qui était à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de lieu de... finalement, de rassemblement des Israélites, des Hébreux. Hein, sinon, eh bien là, des hauts lieux par-ci, par-là, quelques points de rencontre, parce que le temple n'avait pas été finalement érigé. Et c'est Salomon lui-même qui, plus tard, eh bien, va ériger le temple. Alors, il y avait encore quelques vestiges de la tente d'assignation, mais il fallait quelque chose où Dieu retrouve son peuple, se trouve en réunion avec son peuple, et le temple va être construit. Mais pour l'instant, eh bien, ça se trouvait dans un haut lieu qui s'appelait Gabaon. Et selon peut-être la tradition également de l'époque, alors il a offert des holocaustes. Alors c'était probablement des sacrifices, que ce soit d'expiation, d'action de grâce ou autre chose. Mais toujours est-il que c'était une grande fête, en quelque sorte, une fête religieuse qui marquait eh bien, ce rapprochement avec Dieu. Et à Gabaon, à ce moment-là, il s'est passé un phénomène extraordinaire ou surnaturel, comme vous le voulez, et il nous est dit que l'Éternel apparut donc à Salomon pendant la nuit. Et ça fait partie de la dimension de l'esprit, vous savez. Ça fait partie des choses qui, quelque part, eh bien, font que c'est Dieu qui prend l'initiative. Hein, quelquefois, les hommes sont parfois à la recherche de Dieu, mais jamais autant comme Dieu nous cherche. Et là, il s'est signalé à travers une apparition nocturne, et Dieu a parlé à Salomon, et il lui a fait cette proposition, parce que c'en est une. Il lui a dit, mais voilà, j'ai vu tes holocaustes. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et puis, tu es un jeune roi, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin de soutien. Et à ce titre-là, eh bien, Dieu lui a dit, mais demande ce que tu veux que je te donne. Alors ça, c'est quelque chose de rêvé. Hein, parce que quand vous avez affaire eh bien, à cette situation, il peut se passer beaucoup de choses hein, par notre tête. Hein, et peut-être le réflexe premier que nous pouvons avoir, c'est tout simplement, eh bien, Seigneur, il y a bien des choses que je n'ai pas eues dans ma vie, il y a bien des choses que je désirerais, il y a bien des choses que je voudrais obtenir, mais voilà, hein, les conditions, hein, tout simplement, les choses ainsi, eh bien, m'empêchent d'accéder à ce qui me plairait, ce que mon cœur désire. Et là, Dieu vient vers Salomon et lui dit, mais tu demandes ce que tu veux, tout simplement. Alors chacun est en train d'imaginer ce qu'on pourrait demander. Vous savez, je ne sais pas si ce couple d'Anglais, là, la semaine dernière, qui a eu le jackpot hein, de l'euro au million, il a gagné 183 millions. J'ai vérifié depuis, je vous avais dit 160, mais c'est encore plus que ça. Hein. Oh, quelques millions de plus, hein, ça compte pas beaucoup. Hein. Mais imaginez-vous en euros, hein, c'est terrible. Alors, je ne sais pas s'il avait demandé, mais toujours est-il que lui, il n'a pas demandé, il a gratté. Bon, voilà. Hein. Et il a obtenu hein, naturellement cela. Mais bon, après le reste, ça le regarde. Et ce n'est pas à nous de commenter sur la situation. Mais imaginez-vous que Dieu nous demande et nous dise, mais qu'est-ce que je pourrais demander au Seigneur? Oh, il y aurait certainement beaucoup de choses, hein. Peut-être dans notre bien-être, pour une bénédiction particulière, pour eh bien, le bonheur de ceux qui sont autour de nous, peut-être une meilleure situation. Enfin, bon, tout est ouvert et les propositions eh bien, peuvent être faites. Et ça, c'est quelque chose d'excellent, parce que nous allons voir de la manière dont la réponse a été donnée. Et je dis bien que la réponse qui a été donnée à Salomon, enfin la réponse de Salomon à Dieu, a été véritablement inspiré. Et je pense que Salomon, eh bien là, un peu plus tôt, il nous est dit dans le texte, je ne l'ai pas lu, mais il nous dit, Salomon aimait l'Éternel. Ouais. Vous savez, la prière, et ça c'est un aspect que je souligne aujourd'hui, on a souligné bien des aspects lorsque nous avons parlé de la démarche de l'homme vers Dieu, mais cette démarche aussi, elle compte beaucoup. Il aimait l'Éternel et il suivait les ordonnances de ce que Dieu avait donné donc à David son père, etc. etc. Il essayait de mettre en pratique et de vivre finalement eh bien, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connaissait. Mais il aimait l'Éternel. Vous savez, quand on aime Dieu, eh bien, je crois que ça change beaucoup de choses. On ne l'aime pas parce qu'il va donner. On ne l'aime pas pour finalement eh bien, là, des choses que nous nous imaginons de Dieu. Mais on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Il est, c'est vrai, le donateur. Mais il ne faut pas que ses dons viennent recouvrir eh bien, sa personne et ses prérogatives ou ses attributs. Et je pense que quand il nous est dit que Salomon aimait l'Éternel, c'est que franchement, il aimait l'Éternel. On lui avait appris certainement depuis sa petite enfance à aimer Dieu. Et il a eu un exemple formidable. Même si David n'a pas été eh bien, là, un homme parfait, mais néanmoins, je crois qu'il a fait la démonstration dans toutes les situations, David. Dans les situations où il était fidèle à Dieu, il aimait Dieu. Dans la situation où il a péché contre Dieu, eh bien, néanmoins, c'est encore son amour pour Dieu qui l'a amené à se repentir et à revenir vers Dieu. Alors, ben, quand on grandit dans une atmosphère comme ça, eh bien, on est tout imprégné d'un exemple positif. Et nous voyons que eh bien, ça a été certainement un élément marquant. Vous savez, c'est David, toujours le même David, qui écrira dans le psaume 37, « Eh bien, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et faire de l'Éternel ses délices, c'est quand même l'aimer. Parce que quand on fait de quelqu'un eh bien, nos délices, c'est que véritablement il y a, par-delà peut-être tout ce que nous pouvons imaginer, il y a quand même le cœur qui est là, hein, notre affection. Alors, demande ce que tu veux que je te donne. Alors Salomon eh bien, a répondu. Ça se passe dans un contexte de rêve. Ça se passe dans un contexte tout simplement eh bien, d'un songe, en quelque sorte. Alors, il dira, il ne va pas lui demander tout de suite. Et ça, c'est bien. Il va commencer à avoir un esprit de reconnaissance dans un passé, dans une histoire passé. Il dira, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Eh oui, ça c'est formidable de se souvenir que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes grâce à Dieu, mais nous le sommes aussi dans un esprit de reconnaissance pour tous ceux qui nous ont précédés. Vous savez, nous sommes dans un temps aujourd'hui où la révolution, la rébellion, la contestation est partout. Mais je pense que il est quand même important de souligner une chose, c'est que nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Et nous avons besoin de prendre en considération qu'il y a eu des gens avant nous, qu'il y a eu peut-être un père, une mère, selon la chair, qu'il y a peut-être eu aussi des amis, qu'il y a eu peut-être des gens qui nous ont porté le témoignage, des gens qui nous ont aimés sans nous connaître, des gens qui ont prié pour nous. Et des gens qui ont suivi peut-être notre cheminement, je pense aux moniteurs de l'école du dimanche, par leur exemple et leur fidélité. Et puis dans bien des contextes où là nous avons besoin de prendre en considération que tous ces gens-là ont été en jalonnement de notre vie, conscients ou non, mais néanmoins, eh bien, ça nous a imprégnés. Et de pouvoir être reconnaissant à Dieu de nous avoir donné ces gens-là pour nous mener là où nous sommes aujourd'hui. Et il remerciera, tu as traité. David est mort, il ne peut plus remercier Dieu, mais c'est son fils qui va le faire, en quelque sorte en son nom, étant conscient de ce qu'il bénéficie aussi aujourd'hui de Salomon. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et la droiture de cœur envers toi. Quel exemple ! Vous savez, Salomon a été un homme qui a eu beaucoup dans sa vie. Il est présenté dans la Bible comme l'idéal du bonheur humain. Il a eu de l'argent, à tel point qu'il nous est dit que l'or était aussi fréquent que les pierres à Jérusalem. Je peux vous dire, quand vous allez à Jérusalem, il y a des pierres. Ça, c'est sûr. C'est le pays des pierres, là-bas. Et il a eu le prestige. Il a eu un palais formidable, la maison de la forêt du Liban. Elle est décrite dans la Bible. Il a fait construire un temple qui n'a jamais été égalé. Il a eu des chevaux, parce que c'était un homme qui aimait les chevaux. Aujourd'hui, les chevaux, c'est l'équivalent de l'automobile. Vous savez, regardez les hommes d'aujourd'hui, les belles voitures, ils aiment ça. Mais à l'époque, c'était le cheval. Et on allait chercher, il y avait des caravanes qui descendaient donc de Jérusalem continuellement en Égypte, parce que c'était le pays des chevaux. Et il faisait remonter des quantités phénoménales de chevaux pour son armée, pour le prestige, etc. etc. Puis bon, c'était peut-être moins glorieux, mais en tous les cas, on connaît le harem de Salomon, ce qu'il a perdu quelque part. Ça, c'est certain que là, il a été certainement à dépasser la mesure, mais néanmoins, en tous les cas, il a eu un exemple, et ça a été véritablement un homme qui a été d'une grande prestance, puisqu'on est venu de Saba, la reine de Saba est venue pour écouter la sagesse. Il a écrit des choses formidables, le livre de l'Ecclésiaste, d'autres livres de la Bible, son inspiration aussi. Alors, parce qu'il a eu un exemple devant lui, c'était son père, parce que David marchait dans la fidélité à Dieu, dans la justice et la droiture de cœur, et tu lui as conservé cette bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc, il est conscient que ce n'est pas lui qui a fait le monde, ce n'est pas lui qui a inventé le monde, Salomon, mais tout cela, il bénéficie finalement d'un héritage, qui est un héritage humain, mais d'un héritage moral et d'un héritage spirituel. Quelque chose de colossal, quelque chose de formidable. Et il reconnaîtra, il dira à Dieu dans sa reconnaissance, avant de lui dire « voilà ce que je veux », eh bien il lui dira tout simplement « eh bien tu as conservé cette bienveillance, parce que à la mort de mon père David, eh bien tout aurait pu retourner comme finalement, eh bien c'était auparavant. Alors moi je suis le fils qui a été donné, c'est vrai, à David, le roi David, et vous savez dans quelles conditions ce fils est né ? Salomon c'est quand même quelque chose. Il est né en quelque sorte à la suite de l'adultère de David avec Bathsheba. Le premier enfant est mort, mais ensuite, Salomon est arrivé. Et Salomon, ça veut dire Jedidja, et ça veut dire celui qui est aimé de l'Éternel. Et nous voyons, il porte un nom tout à fait prédestiné. Alors, tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône, et il est là. Maintenant, c'est lui qui va présider aux destinées d'Israël, mais comment va-t-il présider à ses destinées ? Est-ce que ça va être un bon roi ? Est-ce que véritablement, eh bien, il va être fidèle ? Est-ce qu'il va être juste ? Est-ce qu'il va avoir la droiture de cœur ? Est-ce qu'il va être l'égal de son père ? Dans un premier temps, il fera mieux que son père. Sa renommée et sa gloire sera, on pourrait dire, pour le temps, pour l'époque, dans le monde connu d'alors, ça va être une réputation internationale, Salomon. Et voilà sur quoi nous nous appuyons. Sur quoi Salomon s'appuie pour demander et formuler maintenant sa prière. Il dira, mais maintenant éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur, c'est-à-dire moi Salomon, à la place de David, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Donc il y a là la marque de l'humilité. Parce qu'il aurait pu dire, mon père est mort, j'ai le pouvoir, et vous allez voir avec un jeune homme ce que ça peut donner. Vous savez, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans la poussière. Et ça va très vite comme ça. Le père a construit, le fils a détruit. Il faut se méfier. Mais nous voyons que dans cette partie de la vie de Salomon, il va manifester toute sa modestie en disant à Dieu, mais moi j'ai peut-être reçu beaucoup, j'ai peut-être eu un formidable exemple, mais moi je ne suis un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Vous savez que trop souvent les jeunes savent tout, connaissent tout, et plus on grandit, plus on vieillit, moins on sait. Ça c'est certain. Et ça c'est la vie qui nous apprend cela. Mais il ne vient pas avec cette prétention. Il dit « Je suis jeune et je n'ai pas d'expérience. Mon père est mort, le roi David. Et s'il y en a un qui peut me donner véritablement tout ce qui m'est nécessaire pour assumer ma position, ma fonction royale, eh bien, ça ne viendra pas d'en bas, mais ça viendra d'en haut. » Ça, il l'avait compris. Alors, il ajoute « Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, pas n'importe quel peuple, le peuple élu, le peuple d'Israël, qui ne se conduit pas comme toutes les autres nations et les autres peuples. C'est un peuple qui a quelque chose de supérieur. Il ne vit pas avec ses traditions, il ne vit pas avec les coutumes, les us et tout ce que vous voudrez, mais il vit avec une autre dimension, indispensable pour que ce peuple se maintienne, pour que ce peuple soit béni. C'est la dimension spirituelle, c'est la foi d'Israël dans son Dieu. Peuple immense que tu as, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Je suis toujours étonné de voir comment les hommes d'État se bousculent pour être président de la République. C'est pas de tout repos, hein. Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai pas cette envergure, je n'ai pas cette ambition, heureusement, hein. D'ailleurs, voilà. Mais quand on voit qu'il n'y en a qu'un, et qu'il se bouscule au portillon, et il faut voir les promesses qu'ils nous font juste avant de... Hein, après, bon, ils sont bien obligés de se résigner aux lois mondiales, parce que, bon, la France est un petit pays, hein, il y en a d'autres qui font aussi, voilà. Et quand je vois qu'ils sont en train de se bousculer pour essayer d'avoir la place, hein, je me dis, mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour le bien public? Je veux bien croire qu'il y a aussi cette dimension du bien public. Mais vous savez, quand on habite au palais de l'Élysée, ou dans d'autres, ça doit être quand même quelque chose de dire « je suis le premier homme du pays hein, » et d'avoir les destinées d'un peuple entre ses mains. Peuple, voilà, quel qu'il soit. Mais ça serait quand même un souci, moi je ne sais pas, peut-être pour la plupart d'entre nous, en disant « mais comment on va faire ? Comment on va se débrouiller hein ?» Parce qu'il n'y a pas qu'une chose, hein, c'est une multitude de choses. Et moi je suis toujours émerveillé de voir comment ça fonctionne. Alors il y a les hommes, il y a la Constitution. Heureusement qu'il y a la Constitution, hein, parce qu'elle est là pour cadrer les choses. Et même un président ne peut pas faire n'importe comme il veut. Mais toujours est-il que c'est quand même assez impressionnant, hein, ça donne le vertige. Alors, Salomon était certainement conscient de tout cela. Il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même une royauté absolue. Hein. C'était le roi décrété, et puis bon, tout le monde suivait, hein, c'était comme ça. Mais, à une différence par rapport aux autres nations, c'est que quand même, quand c'était un homme de foi, il y a eu des bons hommes, il y a eu des grands hommes de foi, des grands hommes, des grands rois en Israël, c'est qu'il faisait les choses en consultant Dieu. Et je pense que là, dès les premiers pas, Salomon ne veut pas y aller tout seul. Il ne veut pas seulement y aller avec un conseil humain, parce qu'il avait certainement aussi des ministres, hein, et puis des gens qui appartenaient finalement eh bien, à l'ancienne économie de son père, et qui étaient des hommes avisés, qui pouvaient lui donner des bons conseils. Son fils fera une catastrophe. Connaissez Roboam, le successeur de Salomon. Lui, il a eu le choix. Quand son père Salomon est mort, il a eu le choix d'écouter le conseil des anciens ou d'écouter le conseil des jeunes qui n'avaient aucune expérience. Ben moi, je vous dis qu'au lieu d'écouter le conseil des anciens, sans écouter le conseil de Dieu, il a écouté le conseil des jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça n'a pas été très loin. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le schisme en Israël, le royaume du Nord avec la capitale Samarie et le royaume du Midi avec la capitale Jérusalem, c'est-à-dire le peuple pendant des siècles et des siècles a été coupé en deux. Tout ça par un manque de sagesse. Et on le voit, autant Salomon s'est inspiré de son père David, autant Roboam, le successeur de Salomon, va faire exactement le contraire. Vous savez, ça se voit aujourd'hui, hein, dans les générations et dans le temps où les fils, hein, s'ils ont quelques pouvoirs ou quelques capacités, disent « eh bien, je ne ferai pas comme mon père, soit, mais... Vous savez, Paris ne s'est pas fait en un jour, et quelquefois, construire un empire, construire quelque chose, même ne serait-ce qu'une entreprise et des biens, c'est souvent avec du labeur, de la peine, et c'est très vite détruit, parce qu'il suffit de faire simplement l'erreur, de véritablement de passer outre, souvent des choses qui sont essentielles. Alors, il en était conscient. Et voilà que la prière, proprement dite, il est dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » Voilà la demande. Vous savez que la prière de Salomon peut nous inspirer aussi. Hein. Celui qui demande de l'intelligence, c'est qu'il est conscient qu'il en a besoin. Parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas cette intelligence parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents. C'est comme la sagesse. Vous savez, dans Jacques, il nous est dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. » Et à partir du moment où nous nous croyons intelligents et nous nous croyons sages, c'est là où nous faisons la preuve que nous ne sommes ni sages ni intelligents. C'est ça la subtilité de l'Écriture sainte. parce qu'elle nous met en face de nous-mêmes. Elle nous ramène finalement à notre condition d'humus. Vous savez ce que c'est ? Humus, c'est la terre, c'est la poussière. Et humus a donné le mot humilité. Et là, au stade où nous en sommes, Salomon était rempli de modestie et d'humilité. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. C'était pas seulement pour lui-même. Il aurait pu dire « Rends-moi intelligent pour moi-même, pour que je sois admiré par mon intelligence, que je puisse prier parmi les poètes et les artistes, les penseurs, les savants et les érudits. » Non, c'était tout simplement pour juger ton peuple. Qu'est-ce que ça veut dire juger ? C'est-à-dire bien le conduire, bien le gouverner, donner à chacun selon ses droits, faire en sorte que, eh bien là, il n'y ait pas d'injustice. Et un roi, comme tous ceux qui sont élevés en dignité, ont des pouvoirs. Et le pouvoir, c'est très dangereux. Ouais. Le pouvoir rend fous les hommes. Il les rend fous d'orgueil. Et ils se détruisent eux-mêmes en n'épargnant pas les autres, pour discerner le bien et le mal. Voilà l'objet. Savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Vous savez, quand on lit ce texte, on se dit, bon, le bien c'est ça, le mal c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi évident. Parce qu'il y a toujours des cas d'espèces, il y a toujours des cas auxquels nous sommes confrontés, et les choses sont tellement embrouillées. Ouais. C'est tellement mêlé, c'est tellement difficile à discerner. Bien, mal. Parce que on n'a pas affaire à des choses. Quand il s'agit de traiter et de juger des choses, des objets, des états, oui, bon, c'est bien, c'est mal. Mais quand il s'agit des personnes, c'est une autre affaire. Et il est question du peuple, il n'est pas question d'une gouvernance, il n'est pas question d'une gestion et ceci et cela. Ça, ça peut se faire hein, avec l'intelligence. Mais quand il s'agit des personnes, vous connaissez l'histoire du jugement de Salomon avec les deux mères. Avec l'enfant, waouh, si ça se passait dans nos tribunaux aujourd'hui, je peux vous dire que ce serait... Eh mais ouais, j'ai écouté souvent des commentaires de judiciaires et ils font référence au jugement de Salomon. Vous le relirez, vous connaissez l'histoire du bébé, là, qui a failli être coupé en deux. C'est terrible, une chose pareille. Alors, il s'agit des hommes, il s'agit de la vie humaine. Ce que peut-être, aujourd'hui, les gens ne font pas de cas. Vous savez, je vais vous dire ce que les gens font de cas. Ils font le cas de l'argent, est-ce que ça peut rapporter l'intérêt ? Mais peu importe les hommes qui se débrouillent. Voilà. Et c'est bien la grande différence. Et moi, je crois que Salomon jugeait, il priait pour juger, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On peut tous faire des erreurs. Et on a vraiment besoin que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence et lui demander précisément eh bien cela. Car qui pourrait juger ton peuple et ce peuple si nombreux ? Eh oui, ça doit être quelque chose hein, d'être investi dans des hautes responsabilités parce qu'on n'a pas qu'un problème à traiter par jour. C'est de multiples problèmes. Des problèmes à l'intérieur du pays, des problèmes à l'extérieur du pays. Vous avez des gens qui vous aiment, des gens qui vous haïssent. Et ceci et cela, qu'est-ce que l'on peut faire ? On aurait en tendance, avec ceux qui ne nous aiment pas, eh bien de régler leur compte. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Eh oui, hein, quand on est roi ou quand on est... Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a une sagesse. Et cette sagesse, c'est Dieu qui va nous la donner du savoir-faire. Et cela nous rapporte naturellement, et nous reporte, pardon, au sermon sur la montagne de l'attitude de foi et de l'attitude dépendante du chrétien vis-à-vis de Dieu. Alors, la demande est faite. Et il nous est dit tout de suite après que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Est-ce que nos prières plaisent à Dieu ? Nous le croyons. Nous l'espérons. Oui. « Seigneur, t'es content de moi, j'ai bien prié. Hein. » Alors si vous dites ça, c'est pas la peine de poser la question. Hein. Ouais. Mais quelquefois, à l'intérieur de nous-mêmes, on ressent que notre prière, c'est pas pour se glorifier, mais on ressent que notre prière, comme si elle avait marqué quelque chose. On a touché quelque chose. Et c'est comme le Saint-Esprit qui pourrait nous dire à l'intérieur de nous-mêmes, « Mais c'est ça, toi, cette prière, tu l'as fait monter spontanément, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce que tu as demandé. » Alors, on n'est peut-être pas encore exaucé, mais on sait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a comme un assentiment de l'esprit qui nous dit, eh bien, c'est ça, elle a plu au Seigneur. Écoutez comment Dieu envisage les choses. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, merci Seigneur de m'avoir inspiré, merci de m'avoir conduit, je n'aurais pas été capable moi-même. puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne te demandes pas pour toi. Parce que voyez-vous, la priorité de nos prières, ce n'est pas nous. La priorité, c'est la gloire de Dieu. Je tiens à le dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il y a les petites vérités qui passent cet après-midi, tout simplement, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour nous. Même dans nos réunions collectives, nous ne prions pas pour nous, pour que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre famille, qu'il bénisse nos affaires, qu'il bénisse... Non, qu'il bénisse mes frères et mes sœurs, qu'il bénisse tous ceux qui sont dans l'impossibilité peut-être de venir, tous ceux qui sont dans l'infortune, tous ceux qui sont malades, qu'il bénisse aussi tous ceux qui sont autour de nous, qui sont perdus loin de Dieu, qui sont égarés et qui quelque part, eh bien, pour lesquels Jésus est mort, pour que véritablement, eh bien, ils entendent l'appel de Dieu. Pas pour nous en priorité, pour la gloire de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit faite. Et puis, nous avons aussi nos besoins. Comme dans le Notre Père. Vous avez remarqué que le Notre Père, il est composé de cette manière. C'est-à-dire que Notre Père qui est aux cieux, on commence à glorifier Dieu. Et ensuite, on parle de nos besoins, de notre pain quotidien, etc. etc. Donc ça, c'est dans l'ordre des choses. Et ça, ça plut au Seigneur parce qu'il n'a pas demandé pour lui-même. C'est pas défendu de demander pour nous-mêmes, mais priorité d'abord à Dieu et puis aux autres. Puisque tu ne demandes pas pour toi, qu'est-ce que vous auriez demandé ? Seigneur, une longue vie, d'accord ? Seigneur, moi j'aimerais bien être... Oh, allez, moi j'en connais un qui s'appelait Mathusalem, c'est pas mal. Et vous savez combien quel âge il avait ? Oh là là, vous êtes loin. 900 et quelques ans, quelques années, vous vous rendez compte ? L'an 1000, ça nous ferait revenir à l'an 1000 ? Wow ! Avant le Moyen-Âge ? Ah bah oui, non mais c'est sûr, Tu ne demandes pas une longue vie, alors je ne vous dis pas, la sécurité sociale, la caisse de retraite, alors là c'est la catastrophe. Ni des richesses, Seigneur enrichis-moi, donne-moi beaucoup d'argent, moi je voudrais bien avoir ceci et cela. Ni la mort de tes ennemis, oh celui-là. Si tu me donnes la possibilité de l'avoir devant moi, je lui coupe la tête, je le mets en petits morceaux. Ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence. Pour exercer la justice, c'est au-dessus de tout ça, c'est au-dessus de toutes les demandes personnelles, de toutes les demandes de vengeance, toutes les demandes d'un cœur mauvais, du cœur humain tout simplement. Alors, puisque tu me demandes l'intelligence pour exercer la justice, c'est Dieu qui dit, et qui prend la parole de l'homme comme si c'était la parole de Dieu même, j'agirai selon sa parole. Vous vous rendez compte, c'est formidable. C'est le contraire de ce que finalement souvent nous trouvons dans la Bible. C'est Dieu qui se met à la portée de l'homme, qui se dit, mais en quelque sorte, eh bien, moi, je vais te donner ce que tu demandes. C'est formidable, C'est beau, On devrait avoir des prières comme ça tous les jours. On devrait pouvoir prier comme Jésus au tombeau de Lazare, au moment où il va ressusciter Lazare, quand il dit à ce moment-là, Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces. Toujours. Seigneur, ce que je te demandais, ce n'est pas pour moi. Mais c'est pour tous ceux qui sont autour. Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau, vous rendez compte. Je sais que tu m'exauces toujours. Les prières de Jésus étaient parfaites. Selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu. Alors, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ça, c'est formidable. Vous savez que 3000 ans après, on parle encore de Salomon. Oui, c'est vrai. Salomon, à travers la Bible, naturellement. Si vous allez en Israël, vous verrez, il y a deux noms qui reviennent continuellement en Israël, à Jérusalem en particulier, c'est David et Salomon. Oui, ça, c'est le cœur, on pourrait dire, de l'ancien Israël. Parce que les Juifs sont restés encore sur ces données, naturellement. Je n'ai pas vu une rue à Jérusalem où il y a marqué « Avenue Jésus-Christ ». Ils l'attendent, voilà. La plaque est peut-être prête, mais pour l'instant, ça sera dans la Nouvelle Jérusalem, pas dans l'Ancienne, pas dans la Jérusalem terrestre. Ah oui. Mais par contre, il y a des avenues, l'avenue David, Salomon et puis tous les autres hommes, les grands hommes d'Israël, naturellement. Alors, personne ne sera comme toi pendant la durée de ta vie et après. Parce que vous savez, quand on lit par exemple le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, c'est un bijou, hein, de sagesse et d'inspiration. Il a fait des choses extraordinaires, cet homme. Il a construit des jardins. Il a réfléchi sur les choses. Il a étudié le monde animal. Il a dit des choses formidables sur les petites bêtes, les fourmis et puis tout le reste. Hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et voilà que Dieu lui dit, puisque tu as donné ça, puisque tu m'as demandé cela, moi je vais te donner cela, mais je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alors Seigneur, c'est trop. Hein. Arrête Seigneur, je ne supporte plus. Ce que tu n'as pas demandé, je vais te le donner. Des richesses et de la gloire, et ça a été exact. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit ton pareil. Alors, il y a une condition. Alors on est dans le régime de la loi, hein, c'est la loi de l'Ancien Testament. Mais bon, ça vaut encore aussi pour nous aujourd'hui. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours, je te donnerai une longue vie. Alors c'est vrai que Salomon a été un roi fameux. Il a régné combien de temps à Jérusalem? Dites-moi un petit peu. Oui, 40 ans. Vous savez qu'il y a eu 3 fois 40 ans pour les 3 premiers rois d'Israël. Saül, 40 ans. Épouvantable. David, 40 ans. 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Et Salomon, 40 ans. Vous vous rendez compte? Ces royaumes, après, ça a été tout à fait différent. Mais ça a été quelque chose quand même. Je prolongerai tes jours. Et Salomon s'éveilla. Alors, peut-être que Dieu va vous parler. Demain matin, téléphonez-moi. Hein? Non, mais il y a des belles histoires comme ça. Parce que vous savez que cette histoire, on la voit encore aujourd'hui. Hein? Ah oui. Quand on aime l'Éternel, quand on aime Dieu, quand on fait monter vers lui la prière qu'il aime, la prière de la foi, la prière de l'humilité, de la modestie, la prière qui demande la gloire de Dieu, la prière qui demande le bien, qui demande la bénédiction sur les autres, qui demande le salut, qui demande la grâce de Dieu, qui demande les délices, finalement, du ciel. Alors je crois que Dieu, à ce moment-là, exauce. Et puis, vous demandez ça. Et chose que nous avons vérifiée dans notre propre vie spirituelle, je voudrais vous dire que si nous cherchons son royaume et sa justice, en priorité, le Seigneur est merveilleux. On ne se lassera jamais, on ne se fatiguera jamais de dire que le Seigneur nous en donne beaucoup plus que ce qu'on demande. Ça, c'est quelque chose que l'on peut dire, que l'on peut affirmer. Et dans notre vie de chrétien, eh bien, nous avons vu que, en donnant la priorité au Seigneur, il s'est occupé de nos affaires. Il a béni nos affaires. Il a béni notre vie. Et il nous a donné de telle sorte que nous pouvons dire, mais avec véritablement mon Dieu, je suis heureux, je suis content. On a la satisfaction et le contentement. Alors écoutez, je termine comme on a commencé. L'apôtre Paul avait découvert aussi cette dimension. C'était un homme de prière, Paul. Un homme de prière qui apprenait les autres à prier. Qui inspirait, on peut dire, par son exemple, les autres à prier. Il y a beaucoup de prières dans les écrits, les épîtres de Paul, et d'exhortations à la prière. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des textes comme ça, comme nous avons plongez nos regards cet après-midi qui nous inspire de la juste et de la vraie prière parce que Dieu les a préparés pour ceux qui l'aiment. Vous savez que Dieu a des trésors. Il y a dans le ciel des trésors qui nous sont invisibles. Nous ne pouvons pas. Mais nous savons que Dieu nous a donné un cœur pour atteindre et une main. C'est le cœur et la main de la foi. Et à ce moment-là, eh bien, c'est à notre disposition. Non pas pour ramener ces choses à nous-mêmes, mais véritablement pour que nous puissions en faire un sujet de bénédiction et que ce sujet de bénédiction permette à d'autres qui seront enrichis par cette source et cette ressource de bénir Dieu à leur tour. Ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour la gloire de Dieu et la bénédiction des hommes, car Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Alors Seigneur, on pourrait dire comme les disciples un petit matin, c'est écrit dans l'évangile de Luc, étaient réunis autour de Jésus et ils voyaient Jésus prier. Et il y en a un qui est venu peut-être taper sur l'épaule de Jésus et lui a dit « Enseigne-nous à prier ». Alors c'est ça ce que nous avons besoin. Seigneur, enseigne-nous la vraie prière, celle qui te glorifie et celle qui amène la bénédiction, comme le dit le psaume, et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants pour remercier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a de belles histoires. Elles sont belles. Et ce sont des histoires, Seigneur, qui sont là dans la réalité de la vie quotidienne des hommes, et particulièrement des croyants. Alors, Seigneur, nous pouvons dire que ta parole, eh bien, elle est merveilleuse. Parce qu'elle nous amène, Seigneur, tout à nouveau, à plonger nos regards dans cet océan de grâce, dans cet océan de miséricorde de notre Dieu, qui, en effet, Seigneur, est prompt à nous exaucer, dans la mesure où il trouve ses dispositions, Seigneur, comme Salomon en a fait la démonstration. Oui, Seigneur, d'abord, en effet, eh bien, te demander simplement, te demander avec foi, te demander humblement, te demander, Seigneur, avec un cœur qui est étreint de sentiments d'amour pour celui qui est notre Père, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Rédempteur, le donateur de toutes les bonnes choses accordées aux hommes. Seigneur, tu nous bénis cet après-midi. Fais-nous du bien à travers ta parole. Donne-nous de bien comprendre, Seigneur, que ce n'est pas à courir ici ou là, mais de nous tenir devant toi. Alors, Seigneur, ce qui nous réjouit profondément, c'est que si nous te demandons les choses de valeur, nous te demandons les choses, en effet, Père éternel, les véritables choses, les véritables biens, tu nous donneras tout le reste par surcroît, et nous t'en bénissons et nous te remercions. C'est ce que tu as fait déjà, et c'est ce que tu ne manqueras pas de continuer à faire pour tous ceux qui ont un cœur droit, un cœur sincère, un cœur honnête. Merci, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.